nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Focus, je vous emmène à la frontière entre la chimie, l'égyptologie et la cosmétique. Et oui, comme vous le savez, les Égyptiens de l'Antiquité se maquillaient, ourlant leurs yeux de noir, et qui, outre l'aspect esthétique, avaient des vertus médicales. Si les nombreux traités de l'époque faisaient allusion au traitement des infections oculaires par ce procédé, il restait à le démontrer et c'est ce qu'a réalisé l'équipe du chimiste, plutôt devrais-je dire électrochimiste et académicien Christian Amator. Une aventure qui date de 2007-2008 et qui s'est terminée au milieu de l'année 2010 mais qui reste à la fois insolite et extraordinaire et que vous nous racontez avec plaisir, Christian Amator. Christian Amator, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Alors, en donnant comme ça quelques informations, bien sûr, plusieurs questions nous viennent à l'idée. La première, vous êtes donc, comme je viens de le dire, électrochimiste. Comment êtes-vous tombé dans cette histoire fabuleuse?
Alors, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis les travaux du musée scientifique du Louvre, ce qu'on appelle le CE2-RMF, et qui est une unité du CNRS. Donc le CNRS m'avait demandé de donner des avis, des expertises au début. Et j'ai toujours été passionné par ce mélange entre la science et les matériaux du patrimoine, la compréhension des matériaux du patrimoine. Mais pendant très longtemps, comme moi je suis un chimiste des solutions, j'avais pratiquement aucun rapport avec les œuvres du patrimoine parce qu'il n'est pas question de dissoudre la Joconde pour savoir en quoi elle est faite. C'était resté une curiosité purement intellectuelle. Et puis là, Philippe Walter, qui est directeur de recherche au CNRS et qui était directeur de cette unité, m'a parlé de ce cosmétique qu'ils avaient étudié spectroscopiquement. Et de ses propriétés curatives. Pour moi, jusqu'avant, c'était uniquement l'aspect cosmétique, le maquillage noir de Néfertiti, des pharaons, et je pensais même que c'était lié que à la noblesse, très haute distinction.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas, parce que tout le monde le portait, y compris les enfants. Donc c'était quelque chose qui était là, et qui avait une fonction cosmétique vraie, mais qui était en même temps comme un chapeau pour avoir une propriété vestimentaire, mais en même temps protégé du soleil. D'accord. Et donc, c'est cette espèce de dualité qui est apparue des travaux de l'équipe de Philippe Walter. Et l'idée, il y avait des traités et tout qui invoquaient ces propriétés cosmétiques, mais c'était présenté au milieu d'incantations, de choses comme ça.
C'était magique et religieux.
Voilà, donc ça semblait un peu fumeux, quoi. Avec Walter, on a réfléchi à ça et on a pensé que s'il y avait propriétés, ça devait porter sur des fonctions bactéricides. Et donc, on a commencé à vouloir regarder cette affaire au niveau cellulaire, chimique. Et comme moi, j'ai développé des méthodes qui permettent d'étudier la réactivité des cellules, en particulier par rapport à ces fameux radicaux libres. L'idée, ça a été, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué au point de vue chimie et biologie, mais si on lutte contre les bactéries, c'est que quelque part, on va jouer avec la panoplie de ce qu'on appelle les radicaux libres. Pour se défendre cette fois-ci, pas pour faire des rites. Quoi.
Alors, justement, venons-en au vif du sujet, à ces phares. Vous allez donc les étudier, votre équipe. Hein. Vous allez vous pencher dessus et vous allez voir qu'ils sont composés en partie de plomb qui nous semblait a priori toxique.
Mmh.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce plomb a priori toxique, finalement, va avoir des pouvoirs antibactériens?
Alors, le plomb, aujourd'hui, est tabou. Donc, il serait absolument impensable de dire, voilà, on va faire un cosmétique qui contienne du plomb. Mais c'est vrai et faux en même temps. Le plomb, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas l'ingérer. Parce que c'est quand il est ingéré, bon, sans faire très compliqué, qu'il va passer à des degrés d'oxydation tels où il va générer des espèces qui, elles, vont être des espèces très toxiques. Mais le plomb métal, celui des tuyaux de plomb, on peut toucher du plomb avec son doigt, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, les soldats de plomb dans le temps. Hein. Et le plomb à un bas degré d'oxydation, comme celui qui était utilisé dans ces maquillages, non plus n'est pas toxique directement. À partir du moment où on ne le met pas à la bouche. Et d'ailleurs, il continue à être utilisé au Maghreb, en Inde, au Pakistan, en Arabie Saoudite, et tout sous ce qu'on appelle le kohl. Et seulement le kohl, c'est uniquement un sulfure de plomb avec des herbes aromatiques. Et là, ce qu'avaient trouvé les Égyptiens, c'est que... Donc le sulfure de plomb, c'est un composé naturel. Et là, ce qu'avaient trouvé les Égyptiens, c'est que en fabriquant un composé spécial qui n'existe pas naturellement, qu'on appelle la laurionite...
En le faisant chauffer, en faisant quel procédé?
C'est simplement une chimie qu'on appellerait douce aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on mélange du sel de cuisine, hein, de l'oxyde de plomb, qu'on appelle la litharge. Hein, et il faut brasser ce mélange. Et là, les composés réagissent entre eux. Mais ça prenait 30 jours et il fallait faire très attention à ce que la réaction reste dans certaines limites. Et donc, il y avait tout un, aujourd'hui, on dirait un process, un engineering de cette chimie-là qu'ils avaient développée de manière empirique et qui correspond à l'optimum de ce qu'on peut faire avec les moyens techniques de l'époque. Disons, sans avoir recours à des méthodes qui seraient des méthodes faisant intervenir des réactifs que nous, on sait faire aujourd'hui, mais qu'eux ne pouvaient pas faire. Et donc, c'est extraordinaire, ils avaient développé, mais ça prenait 30 jours. Et quand on pense 30 jours et toute la population égyptienne, on se dit qu'il devait y avoir une raison pour faire ces composés. Je veux dire, dans toutes les choses plus ou moins religieuses, par exemple, vous pensez à l'encens, vous pensez même à la momification. C'est très complexe, avec des protocoles très particuliers et tout. Mais par contre, c'est des produits de base, c'est-à-dire qu'on trouve facilement. Et donc là, on utilise une fonction du produit. Et là, manifestement, les produits de base ne donnaient pas cette fonction. Et ils ont créé un produit pour donner cette fonction. Donc ça veut dire qu'il y avait une fonction qui était recherchée au-delà de la fonction maquillage.
Donc cet aspect antibactérien était voulu, souhaité par les Égyptiens.
Ils ne devaient pas savoir ce que c'était qu'une bactérie, puisque même nous, jusqu'à Pasteur, on n'avait aucune idée de ces microbes. Okay. Mais par contre, ils avaient très bien compris que quand on mettait ça, eh ben, on pouvait recevoir de... Parce qu'il faut se rappeler que les Égyptiens vivaient essentiellement dans le Nil, dans son delta, et sur la berge du Nil. L'Égypte, comme on l'imagine aujourd'hui, avec les pyramides, le Sphinx et tout ça, c'était l'endroit où il n'y avait personne. Donc l'endroit où il y avait les gens, c'était l'endroit où il y avait l'eau. Et quand vous dites que c'est tropical, les alluvions du Nil, c'est une soupe bactérienne. Ça veut dire que si vous recevez une goutte d'eau, même là aujourd'hui, si vous êtes touriste, vous recevez de l'eau comme ça dans les yeux, c'est à peu près sûr que vous déclenchez quelque chose. Bon, mais aujourd'hui, on va avoir des antibiotiques. Eux, ils n'avaient pas d'antibiotiques. Donc, il fallait empêcher. Et ce produit, cette chlorionite, en fait, quand on discutait avec Walter, on a pensé qu'elle stimulait les défenses immunitaires de l'organisme de telle manière que l'œil, la surface de l'œil, puisse se protéger contre des bactéries qui arriveraient de, par projection dedans, dans une goutte d'eau. Bon, ça, c'était quelque chose qui était tout à fait cohérent avec les textes.
Mais qu'il fallait vérifier.
Mais qu'il fallait démontrer. Parce que la science, c'est pas simplement d'avoir des idées, c'est de démontrer qu'elles sont vraies.
Et justement, donc, vous allez pouvoir démontrer que ce procédé est exact. Et justement, grâce aux micro-électrodes, oui, qui sont des synapses artificielles. On en a parlé au cours, oui, d'une, oui, première émission qui vous a été consacrée, où vous nous avez parlé de vos travaux, et qui vont permettre de, effectivement, valider cette hypothèse.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué dans cette émission, on a développé des tout petites électrodes. Donc, pour vous fixer une idée, on pourrait en caser 50 l'une à côté de l'autre, comme un faisceau, dans un cheveu humain, quoi. Donc, ça vous donne une idée de la taille de chaque électrode. Mais ça, c'est la taille d'une cellule. Et là, donc, on a travaillé sur des cellules qui sont les équivalentes des cellules de la paupière. Et donc, en mettant cette solution qui venait reconstituer du liquide lacrymal avec le composé en question, et on a vu que les cellules produisaient essentiellement du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, bon, c'est une toute petite molécule, un atome d'azote, un atome d'oxygène. C'est à peu près la même taille que la molécule d'oxygène. Et c'est une molécule qui a énormément de propriétés biologiques. Alors, pendant longtemps, elle a été négligée par tout le monde. Et puis, disons, dans les années 90, on a commencé à trouver énormément de propriétés, cette molécule, en milieu biologique. Et en particulier, bon, on sait que c'est un neurotransmetteur, ça joue sur la vasodilatation, ça joue un rôle dans la digestion des bactéries par les macrophages, par nos globules blancs. C'est couplé à tout un tas de processus qui tournent autour de la protection de l'organisme ou de son fonctionnement, de l'alimentation en sang, des tissus. Et donc, simplement, les bactéries n'aiment pas ça parce que c'est une molécule qui est capable, dans certaines conditions, d'attaquer les fameux radicaux libres, dont on dit que du mal, mais qui sont très bénéfiques. Comme je vous avais dit dans une précédente émission, je suis un darwinien très convaincu et je pense que l'évolution aurait éliminé ça si on s'en sait, c'était pas utile.
Alors, ça c'est pour les réactions chimiques. Revenons quelques instants sur ces Égyptiens. Vous me disiez en préparant cette émission que là où il disposait ce cône, hein, appelons-le comme ça, ce phare, il existait plusieurs dosages différents qui, en fonction de ces dosages, étaient voués à des résultats différents. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Voilà, donc la réponse qui est donnée par les cellules à cette lorionite va dépendre de la quantité de lorionite faite de plomb qui va être dissous. Dion-plomb, hein, c'est pas du métal plomb qui est dissous, dans le liquide lacrymal ou sur la surface de la blessure, parce que ça servait non seulement pour protéger les yeux, mais aussi pour soigner des plaies qui ne voulaient pas se refermer spontanément. Donc en fait, tout ce qu'on appelle, quand on a une plaie qui ne se referme pas spontanément, c'est parce qu'on a des bactéries qui se développent là-dessus et qui empêchent le processus normal de fonctionner. Donc le principe, c'était de nettoyer, quoi. Comme moi, quand j'étais petit, on nettoyait avec de l'eau oxygénée ou de l'alcool.
C'est donc un antiseptique.
Voilà, donc c'est un antiseptique. Alors, en fonction de s'il fallait nettoyer une plaie, l'aider à se cicatriser, ou simplement faire de la prévention comme avec le maquillage, vous aviez des dosages différents, et c'était indiqué pour ceci, pour cela, sur le flacon. Et comme je disais tout à l'heure, au Louvre, ils ont même un ensemble de flacons solidaires, parce que l'ensemble est fait en terre cuite, qui contient tous les dosages, donc ce qui fait qu'en fonction, c'était un peu une pharmacopée qu'on avait là, et sans doute c'était un médecin qui pouvait utiliser ça en fonction de ce qu'il avait à traiter. Quoi.
Donc vous parliez de cette toxicité du plomb, si elle était ingérée, ça sous-entend, à travers aussi ce que vous venez de dire, que les Égyptiens savaient à partir de quelle dose ces ions plomb pouvaient être nocifs pour l'humain.
Ce qu'ils savaient, et d'ailleurs ça a été repris ensuite par les Romains, et Pline explique très bien que parce qu'on retrouve les mêmes types d'ions plomb, mais pas le même composé, dans ce maquillage blanc que se mettaient les belles romaines pour se blanchir la peau. À l'époque, il ne fallait pas avoir l'air bronzé, donc à la veille de l'été, maintenant il faut absolument avoir l'air bronzé pour montrer qu'on a les moyens. Et à l'époque, il fallait être tout blanc pour montrer qu'on avait les moyens de ne pas être exposé au soleil.
De ne pas travailler.
Et donc, elle se blanchissait la peau. Et ça, c'est un composé de plomb qui était d'ailleurs utilisé après en peinture pour faire la partie blanche sur laquelle on allait appliquer les couleurs. Et Pline dit bien, quand vous vous êtes mis ça sur les joues, il faut vous laver les mains, parce que si vous portez les mains à votre bouche, là ça devient dangereux. Quoi. Donc ils avaient bien compris que c'était l'ingestion de ces composés de plomb qui conduisait à un toxique, mais c'était pas ce composé sur tout ce qui est en fait des cellules de peau.
Alors aujourd'hui, Christian Amator, toutes les femmes se posent la question, y a-t-il encore des ions plomb dans le cône ?
Alors attendez, dans le col, oui, dans les cosmétiques, non. Jamais un cosméticien, un industriel cosmétique s'amuserait à mettre du plomb dedans parce que il serait tout de suite dénoncé dans les médias, même si c'était avéré que ça n'avait pas d'effet. Quoi. Par contre, le col continue à être utilisé partout parce que était associée la protection du dieu Horus, d'accord ? Donc le dieu Horus est celui qui rétablissait l'ordre, Seth créant le désordre, hein. Et donc, c'était toujours la lutte entre Horus et Seth qui garantissait la stabilité. Mais vous savez, c'est ce qu'on retrouve chez Galien, où la maladie, c'est quand la balance est rompue.
Et déséquilibrée.
D'accord ? Et donc, ils avaient cette notion-là, mais cette notion-là existe encore aujourd'hui. Et par exemple, il y a même des populations d'Afrique où les sages-femmes viennent appliquer sur les yeux des enfants nouveau-nés ce col pour les protéger du mauvais œil. Alors, le mauvais œil, chez nous, c'est devenu le mauvais œil, mais en fait, c'était par là que rentraient la plupart des maladies. Et on le sait aujourd'hui, avec beaucoup de maladies dans les milieux tropicaux, ça rentre par les yeux. Parce qu'il se trouve qu'au niveau de la bouche, on est très protégé, on a tout un tas de mécanismes de défense, les oreilles, c'est fermé par les tympans, et les autres ouvertures du corps, dont l'œil, parce que l'œil, c'est une ouverture, et à travers le nerf optique, on va directement au cerveau. Hein. C'est une ouverture, même si on n'a pas tendance à voir ça comme une ouverture, mais l'œil doit bouger, donc il n'est pas fixé de manière rigide. Ce n'est pas étanche. Et comme on a un liquide lacrymal, ben, les bactéries peuvent nager là-dedans. Bon. Nos globules blancs aussi, peut-être, mais les bactéries aussi.
Eh bien, merci pour ces précieuses et passionnantes explications sur le phare des Égyptiens. Et je renvoie nos auditeurs à une précédente émission que nous avions eu le plaisir d'enregistrer à vos côtés, qui est donc consacrée à votre portrait, à votre parcours. On retrouve notamment vos travaux sur les microélectrodes. Merci à vous.
Merci à vous.